Radio Kapi.
Le journal présenté par Belinda Bosuma.
À la une, cette réunion tenue par le président Tshisekedi pour la refondation de l'économie congolaise, l'amélioration du climat des affaires et la création d'emplois, c'était hier à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Il a réuni notamment les ministères sectoriels et les partenaires internationaux qui accompagnent la RDC. Situation socio-sécuritaire préoccupante à Walikale Centre au Nord Kivu. Occupé depuis mercredi par le M23, malgré ce climat d'incertitude, MSF a pu porter secours aux blessés restés bloqués dans différentes zones. Médecins sans frontières appellent les belligérants au respect du droit international humanitaire. Et puis, le président de la République a enjoint plusieurs ministres d'engager une réflexion approfondie pour mieux servir les intérêts des investisseurs et des entrepreneurs. C'était lors du dernier Conseil des ministres. L'état des lieux du secteur d'investissement et création d'entreprises, nous en parlons avec l'analyste économique Eddy Mouela, notre invité. Mais d'abord cette information, à Kinshasa, les enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes exactes du décès de 5 enfants d'une même famille, décès survenu mercredi après-midi à Kingasani, dans la commune de Kimbanseke. Les enfants, 8 au total, habitant sur l'avenue Ndona au quartier Mfumonkento, se seraient sentis mal après avoir consommé du riz. Dépêchés à l'hôpital des sœurs de Kingasani, seuls 3 ont pu être secourus, parmi eux la sœur aînée qui a préparé le repas. Les survivants ont été évacués aux cliniques universitaires pour une prise en charge. Le bourgmestre de Kimbanseke, qui donne ses précisions à Radio Kapi, affirme que tous les corps ont été transférés à la morgue de l'hôpital de Kinkole. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République a réuni hier autour de lui les ministères sectoriels, les structures étatiques et privées impliquées dans l'économie, ainsi que les partenaires internationaux techniques et financiers qui accompagnent la RDC. C'est dans l'objectif d'élaborer un plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Ces travaux tenus à la Cité de l'Union africaine constituent, d'après Félix-Antoine Tshisekedi, une nouvelle occasion pour la refondation de l'économie congolaise, l'amélioration du climat des affaires et la création d'emplois pour une prospérité véritablement partagée. D'autres précisions avec Billy Van Lutumba.
La tenue de cette réunion de haut niveau nous a permis de poser des bases solides d'une transformation structurelle de notre économie en tenant compte des défis et des opportunités qui s'offrent à nous. C'est donc une priorité nationale car elle est la clé d'une croissance inclusive de la création d'emplois et du renforcement de la résilience économique de notre pays. Martel Félix Tshisekedi dans cette réunion.
L'engagement que nous avons pris aujourd'hui doit maintenant se traduire en actions concrètes. Nous devons œuvrer chaque jour sans relâche pour faciliter l'investissement en simplifiant les procédures administratives et en garantissant une meilleure transparence des affaires, assurer un environnement juridique et fiscal stable, propice à l'épanouissement du secteur privé, encourager l'innovation et l'entrepreneuriat, en particulier parmi les jeunes.
Au nombre des réformes aux stratégies essentielles pour rendre plus compétitif le climat des affaires et l'investissement en RDC, suivant la proposition d'un des experts consultants à la cellule de la présidence en charge du climat des affaires.
Il serait aussi important de voir comment est-ce que les réformes à implémenter dans le secteur du climat des affaires pourraient mieux positionner l'économie congolaise, notamment en termes d'efficacité marginale, en termes de productivité, mais aussi en termes de positionnement sur les différents marchés sur lesquels nos opérateurs économiques opèrent.
Dans la suite de cette réunion, la première ministre annonce la tenue incessante sous son autorité des échanges avec les opérateurs du secteur privé pour la mise en œuvre des stratégies formulées.
Dans l'actualité aussi, la situation socio-sécuritaire reste préoccupante dans le territoire de Walikale et au Nord Kivu. Cela fait suite aux violents combats ayant opposé les FARDC appuyés par les Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces affrontements ont conduit à la prise de Walikale Centre par le M23. Les acteurs humanitaires présents sur place rapportent que jeudi matin, malgré un climat d'incertitude, les équipes de MSF ont pu sortir de l'hôpital pour porter secours aux blessés restés bloqués dans différentes zones. Le chef des missions adjoint de MSF, Marco Don, lance un appel aux belligérants pour qu'ils respectent le droit international humanitaire, propos sélectionné par Ronéline Tibonera.
MSF rappelle à nouveau les belligérants à la protection de la mission médicale, des structures et du personnel de santé, ainsi que des organisations humanitaires. Ce jeudi 20 mars, la situation à Walikale dans les premières heures de la matin, c'était encore un peu tendu, mais à partir de 10 heures, il y a un peu de calme en ville. Et ça a permis à l'équipe MSF qui est présente sur place de bouger en ville pour récupérer les blessés et les amener à l'hôpital. Parce que hier, les combats c'était vraiment particulièrement violent. Au niveau de l'hôpital, les équipes ils feront ce qui est possible pour soigner les blessés, même en sachant que la capacité chirurgicale pour des blessés de guerre au niveau de l'hôpital n'est pas trop forte.
Par ailleurs, dans un communiqué de presse rendu public hier, Médecins sans frontières annonce que sa base à Walikale Centre a été prise entre des tirs croisés lors des affrontements qui ont opposé mercredi l'armée congolaise au M23 AFC appuyé par le Rwanda. Selon MSF, des balles ont même atteint certaines de ses structures et ses véhicules, dont le chef-lieu du territoire qui est occupé depuis mercredi soir par le M23. Plus de détails avec Stanislas Diumi.
Selon ces communiqués, deux importantes explosions ont eu lieu à proximité de l'hôpital général de Walikale Centre, où les personnels médicaux continuent d'assister une soixantaine de patients. Le communiqué précise que MSF n'a pas été directement ciblé par ces tirs et que son équipe va rester confinée jusqu'à ce que les conditions de sécurité soient suffisamment garanties pour reprendre les activités. Cette organisation demande de nouveau aux belligérants de respecter la mission médicale des structures et du personnel de santé ainsi que des organisations humanitaires. Par ailleurs, MSF s'inquiète d'un potentiel afflux de blessés dans les prochaines heures et jours. Notons que ces derniers jours, la cité de Walikale Centre s'était déjà pratiquement vidée de sa population. L'insécurité dans la région ces dernières semaines ayant créé un climat de peur parmi la population civile qui a rapidement pris la fuite en attendant des tirs d'artillerie aux alentours.
Et comme on peut le constater, malgré les récents appels au cessez-le-feu, les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 AFC, soutenus par le Rwanda, se poursuivent. Ces derniers continuent leur avancée en défiant les différents cessez-le-feu dont le suivi demeure complexe. Explication avec vous, Martial Papimukeba.
Les derniers cessez-le-feu immédiats et inconditionnels avaient été convenus le 19 mars entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame lors d'une rencontre à Doha au Qatar. 4 jours plus tôt, le 15 mars 2025, João Lourenço, président de l'Angola et médiateur dans les conflits de l'Est de la RDC, avait lancé un appel similaire. Cet appel s'inscrivait dans la perspective des négociations directes entre les gouvernements et les M23 prévues le 18 mars à Luanda, mais annulé après les retraits des rebelles du processus. Tous ces appels restent lettres mortes et malgré ces initiatives diplomatiques, les combats se poursuivent et les rebelles gagnent du terrain. L'absence d'un engagement formel des parties au conflit, le manque de mesures coercitives en cas de violation et les difficultés de surveillance du respect des cessez-le-feu figureraient parmi les principales raisons de leur non-application. De plus, à ce jour, le M23 AFC n'a jamais officiellement signé ni reconnu ces accords de cessez-le-feu rendant leur mise en œuvre encore plus difficile. Pourtant, ces violations répétées mettent à mal les efforts diplomatiques visant la désescalade de la crise dans l'est du pays.
Pour sa part, le groupe des ambassadeurs francophones en RDC dénonce les offensives de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Ils l'ont fait savoir au cours de la célébration hier à Kinshasa de la Journée internationale de la francophonie dans leur déclaration officielle lue par l'ambassadeur suisse. Ces diplomates appellent aussi à une désescalade de la violence ainsi qu'à la résolution de la crise. Grâce à Mzati pour les détails.
Nous, représentants des pays aux cultures et histoires variées, nous sommes unis tant pour notre attachement à la langue française que par le lien particulier que nous entretenons avec la RDC, pays francophone le plus peuplé au monde et aux potentialités culturelles, géostratégiques et économiques immenses, déclarent ainsi ces diplomates qui accusent ouvertement le Rwanda de violer la souveraineté de la RDC. Ils déplorent la dégradation de la situation humanitaire et des droits de l'homme dans la région du Kivu à la suite de la prise des villes de Goma et Bukavu par les rebelles. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats, dénoncent-ils. Les ambassadeurs francophones à RDC réaffirment leur soutien au processus de paix et efforts diplomatiques visant à résoudre la crise et instaurer une paix durable en RDC et dans la région des Grands Lacs. Ils appellent au pourparlers sincère entre la RDC et le Rwanda pour son soutien au M23 afin de parvenir à un règlement durable et pacifique d'un conflit qui n'a que trop endeuillé la population congolaise et qui porte en elle de sérieux risques de déstabiliser toute la région des Grands Lacs, souligne-t-il.
Dans l'actualité aussi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemain Chabani, a reçu hier à Kinshasa le caucus des députés nationaux du Haut-Katanga. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de sa mission imminente dans cette province. À cette occasion, les députés ont dressé un état des lieux, évoquant notamment l'insécurité ainsi que les tensions entre militants des partis politiques qui perturbent la quiétude des habitants. On écoute le député Serge Nkonde, vice-président du caucus des députés du Haut-Katanga, propos recueillis par Grace Amzati.
Nous sommes venus ici au ministère échanger avec le VPM sur la situation sécuritaire dans notre province. On a parlé aussi de tout ce qui est criminalité urbaine, des conflits coutumiers, parce que le vice-premier ministre voudrait initier une série de visites pendant son itinérance à travers les 6 territoires de la province du Haut-Katanga et dans les 3 villes, savoir Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. Le vice-premier ministre a voulu associer les élus, parce que c'est nous qui portons les cris d'alarme de la population pour avoir été élus. Nous représentons cette population qui souffre de l'insécurité, qui a besoin de la paix, qui a besoin de cette quiétude. Il y a eu des propositions que nous avons faites à l'autorité. Très bientôt, nous allons nous retrouver en format plus ou moins complet avec les autres collègues qui traînent encore dans la base en vue de bien développer cette problématique et descendre sur terrain pour aller finalement travailler et remettre la paix tant attendue par notre population. Et c'est une urgence.
Au-delà des enjeux sécuritaires, d'autres préoccupations ont été soulevées, telles que l'organisation des élections des bourgmestres et de leurs adjoints, la nomination des administrateurs des territoires, les arrestations arbitraires de leaders d'opinion et les sous-effectifs des policiers dans certaines zones du Haut-Katanga. Le vice-premier ministre a rassuré ses interlocuteurs sur les mesures en cours pour rétablir la sécurité dans la province, rapportent ses collaborateurs. Mois de mars, mois de la femme, la première ministre Judith Suminwa rend hommage à toutes les femmes de l'Est qui souffrent et celles qui ont été tuées dans cette guerre d'agression qui endeuille le pays. C'était hier lors d'une conférence Expo Féminin organisée par l'Université protestante au Congo UPC pour célébrer la journée de la femme. À cette occasion, elle a exhorté les étudiantes de l'UPC non seulement à se former, mais aussi à s'enrôler dans l'armée pour défendre le pays. Témoin de l'événement, Étienne Lissumbu.
L'auditoire de l'université protestante est noir de blanc. Le débat entre Judith Suminwa et les étudiants, dont la majorité sont des femmes, se déroule sous le thème « Investir sur la femme pour accélérer le développement ». La première ministre saisit cette occasion pour encourager les jeunes étudiantes de l'UPC à se battre pour assurer leur lendemain.
Briser le plafond de verre, c'est que ne pas être impressionné parce qu'on est une femme, au contraire. Nous avons des compétences et nous ne devons pas hésiter à les mettre à profit pour pouvoir travailler dans les conditions les meilleures. Au même titre que les hommes, et nous ne devons pas le craindre, nous devons nous affirmer et toujours avancer.
Quelques étudiantes présentes à ces rendez-vous expriment leur satisfaction après avoir discuté avec la première ministre.
Alors, étant que présidente de la Ligue des femmes de l'UPC, je dirais que la femme, elle doit se surpasser, elle doit se battre, elle ne doit pas arrêter, elle ne doit pas se dire qu'elle ne peut pas faire.
Alors cette proposition, moi je suis pour parce qu'il faudrait que les jeunes rejoignent l'armée, mais je pense que chacun a un appel particulier. Alors toute personne, tout Congolais où il se trouve, qui se sent en capacité de rejoindre l'armée, je l'invite en tout cas à rejoindre l'armée, mais pour ma part je préfère m'abstenir.
À la fin de la cérémonie, Judith Suminwa sensibilisait les étudiants sur la campagne Congolais Téléma, attendez Congolais debout, dont l'objectif est de soutenir la population de l'Est tout en restant vigilant.
Nord Kivu, pour répondre aux besoins en eau potable de la population de Goma, la Régie des eaux estime qu'une production minimale de 100 000 mètres cubes par jour est nécessaire. Cette déclaration fait suite aux plaintes des habitants de plusieurs quartiers qui n'ont pas accès à l'eau potable. Dans le contexte de crise humanitaire que traverse la ville depuis son occupation fin janvier, le manque d'eau potable est devenu un fardeau insupportable pour la population. D'autres détails avec Élise Kavira.
Grâce à l'alimentation électrique plus que stable dans la ville de Goma, la Régie des eaux a pu augmenter ces dernières semaines sa production d'eau, passant de 50 000 à 54 000 mètres cubes par jour. Cependant, cette amélioration reste insuffisante pour répondre aux besoins de la population de la cité lacustre, où de nombreux quartiers sont toujours privés d'eau potable. Didier Kadiboué, chef des services de distribution d'eau de la Régie des eaux à Goma, reconnaît que les besoins en eau de la population restent considérables en raison de la forte densité de la population.
Pour couvrir toute la ville, il faut qu'on ait au moins une production maximum de 100 000 mètres cubes jour. Là, on peut couvrir une grande partie. Vu la densité, nous pouvons dire que on a atteint le 100% ou bien le 90% du rendement. Actuellement, au niveau des Goma, nous parvenons même à atteindre 54 000 mètres cubes de la production jour.
Il ajoute que la Régie des eaux a besoin d'investissements pour étendre son réseau et ainsi répondre aux besoins de la population. Selon l'UNICEF, au moins 56 000 personnes vont puiser chaque jour de l'eau directement au lac Kivu. Il y a quelques jours, cette agence onusienne a annoncé avoir installé plus de 50 sites de chloration d'eau au bord du lac pour prévenir la propagation des maladies hydriques, dont le choléra.
L'invité.
Le président de la République enjoint plusieurs ministres, notamment ceux du plan, de la justice et garde des sceaux, des finances, de l'industrie et développement des petites et moyennes entreprises, du commerce extérieur et la ministre de la jeunesse d'engager une réflexion approfondie afin de mieux servir les intérêts des investisseurs et des entrepreneurs. C'était lors du dernier conseil des ministres. L'état des lieux du secteur d'investissement et création d'entreprises, nous en parlons avec Eddy Mouela, analyste économique. Il est avec Billy Van Lutumba.
Monsieur Eddy Mouela, bonjour.
Bonjour, Monsieur Billy Lutumba.
Le chef de l'État, dans sa récente réunion du Conseil des ministres, enjoint les membres de son gouvernement de déblayer le parcours des entrepreneurs et investisseurs des embûches pour favoriser le développement économique et attirer les investissements au pays. Quelles sont souvent ces embûches que rencontrent souvent les investisseurs ou entrepreneurs dans notre pays?
Je dois le reconnaître, effectivement, les entrepreneurs, les investisseurs dans notre pays rencontrent des difficultés. Nous avons des difficultés qui sont relatives à la complexité administrative, ce que nous pouvons appeler lourdeur administrative. Nous avons des difficultés ou des embûches liées à la fiscalité complexe et des fois pas toujours très transparente. Nous avons des embûches qui sont liées au risque opérationnel élevé. Notre pays a quand même un niveau, un profil risque assez élevé, même si des efforts sont en train d'être fournis pour ramener les choses dans une proportion positive acceptable, le risque opérationnel est quand même élevé. Nous avons des embûches qui sont liées à un accès limité au financement. Vous serez d'accord avec moi qu'une entreprise, un investisseur qui déploie ses activités, il aimerait quand même que ses activités puissent s'étendre, se développer. Et lorsque l'insécurité survient, ça ne peut constituer qu'une embûche de taille qui peut retarder le plan de développement et si pas pousser une entité à la faillite. Donc, ces embûches pris globalement constituent en fait un goulot d'étranglement qui demande à ce que les différents ministères, les différents services puissent réfléchir et arriver à déblayer les choses pour que nos investisseurs, nos entrepreneurs puissent regarder et aller dans une bonne direction.
De quelle manière ces pesanteurs se font-elles sentir sur le terrain?
La difficulté vient aussi du fait que nos différents services censés accompagner les entrepreneurs et les investisseurs ne sont toujours pas intégrés. Qu'est-ce que j'entends par intégration? C'est tout simplement cette interconnexion qui est relative au déploiement des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui pourrait permettre aux différentes entités censées accompagner les investisseurs et les entrepreneurs de voir, par exemple, comment évolue un dossier, chacun en ce qui les concerne, s'il doit émettre un avis ou un avis technique ou une note de synthèse. Il faudrait que les différents services puissent être interconnectés au travers d'une dynamique de déploiement des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour justement faciliter à ce que les dossiers des différents investisseurs puissent être traités avec célérité. Vous avez aussi la question d'infrastructure. Par exemple, le déficit énergétique. C'est un élément détail qui peut plomber une dynamique d'implantation, d'investisseurs, d'entrepreneurs. Ça pose problème.
Les services ou structures qui doivent accompagner les investisseurs et entrepreneurs vantent les efforts qui sont en cours en termes de faciliter la procédure afin qu'elle soit plus aisée. Êtes-vous aussi de cette avis?
Au niveau des efforts déjà fournis, nous saluons déjà en son temps la création du guichet unique. Ce fut une mesure salutaire dans la mesure où, excusez-moi la tautologie, cela a permis de réduire sensiblement le temps ainsi que le coût se rapportant à la création d'une entreprise. Et cela aide énormément les investisseurs, les entrepreneurs à avancer dans cette direction. Ça, ce sont des mesures qu'il faut fortement encourager. Mais est-ce que cela suffit pour dormir sur ses lauriers? Nous disons non. Et nous saluons en parallèle les efforts qui ont été fournis pour créer l'ANADEC, le FOGEC, pour pousser un peu plus l'ANAPI à être innovant, à être un peu plus regardant au niveau d'attirer les investisseurs dans les pays. Nous saluons tous ces efforts et nous disons que ce sont des choses qui peuvent booster l'entrepreneuriat, qui peuvent booster les investisseurs dans notre pays. Et nous encourageons les choses pour que les différents responsables, et nous le martelons, le président de la République a raison de le marteler aussi, que les différents responsables puissent prendre le problème à bras le corps pour qu'ils créent les conditions d'élaguer les goulots d'étranglement en termes d'infrastructures de base, en termes de fiscalité qui peut bloquer les investisseurs, de lutter contre la corruption, la concussion. Voilà autant d'efforts sur lesquels nos responsables doivent mettre la main, doivent mettre le doigt pour que finalement les choses puissent aller dans la bonne direction.
J'ai dit Mouela, merci.
Merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.